Dans le cadre de l'exposition Grains de Simon Boudvin, Claire Lorestif, directrice du Crédac et commissaire de l'exposition, rencontre l'artiste afin de discuter avec lui des différentes collaborations artistiques qui ont marqué sa pratique ces dernières années.
Alors Simon, après ce travail de l'exposition, les interventions de Fabienne Loret, que tu as invitée il y a à peu près un mois, donc Fabienne Loret, pour vous la situer, est une ancienne ouvrière établie chez Renault, Flin, syndicaliste, féministe et autrice, que tu as souhaité accueillir dans ton exposition lors d'une rencontre de ce type de format. Tony Combe, plus récemment, donc, qui est un historien du design, que tu as invité aussi pour parler notamment d'un des projets visibles dans l'exposition. Et alors que nous allons fermer l'exposition demain, nous nous retrouvons après tout ce long processus de travail tous les deux. Simon Boudvin, ta pratique est large, hein, photographique, de sculpture documentaire, de graphisme, de design, même si c'est un design souvent vernaculaire, mais un design tout de même, un travail d'édition, d'écriture. Donc tous ces outils au service de tes enquêtes, puisque tu es un artiste de terrain qui ne travaille jamais hors sol. L'art, ce n'est plus le tableau dans le salon, mais l'électroménager dans la cuisine, disait Bruno Munari en 1966. J'aimerais alors ensemble revenir sur notre compagnonnage long, puisque la première fois que nous avons travaillé ensemble, certains s'en souviennent peut-être, il s'agissait de cette expo L'Homme de Vitruve. L'Homme de Vitruve, c'était la première exposition que nous organisions dans ce Crédac qui emménageait à la manufacture des œillets, qui, comme ça ne vous a pas échappé, était une usine dans ce bâtiment qui date de 1913 et qui était une usine. Et pour ouvrir notre nouvelle activité de centre d'art dans cette usine, j'avais organisé cette expo collective qui, pour le dire très vite, disait que finalement les usines fermaient et que les centres d'art s'installaient dans ces friches industrielles et devait-on s'en réjouir. Et donc j'avais invité une vingtaine d'artistes à montrer leur travail au sein de cette exposition, dont Simon Boudvin. Donc c'était notre première collaboration et Simon montrait à la fois deux photographies et une petite maquette d'une maison populaire du nord de la France qui avait été déconstruite, pour ne pas dire détruite, déconstruite et installée dans un bâtiment industriel, une sorte de stockage. Et donc, pierre après pierre, Simon avait fait une sorte d'inventaire. Donc, je vous montre rapidement comme ça ces deux images. Donc il s'agissait de deux tirages photographiques assez modestes, d'un format assez modeste. Et sur une table, la maquette, donc à échelle de maquette, de cette façade déconstruite, inventoriée et finalement à rebours, réorganisée comme la maquette d'un projet qui, pour autant, était totalement déconstruit et laissé à l'abandon, en tout cas en suspens. Pas détruit, pas jeté, mais pas non plus reconstruit. Ça, c'était la première étape de notre travail commun. Puis ensuite, j'avais invité Simon Boudvin dans l'exposition que Lara Almarsegui organisait au Crédac en 2013. Tu étais venu nous parler de la façade 03 du musée de Moucron que tu étais en train d'organiser. Pour chaque espace construit, naît un espace en creux. Tu nous disais cela dans cette conférence. Et ton intérêt pour les carrières, les mines, puisque, en effet, chaque espace construit révèle un espace en creux. Puis nous nous sommes retrouvés pour le prix Ricard, dont j'étais commissaire en 2019. Et enfin, cette résidence que nous avons ouverte au Crédac. Une résidence qui a lieu au sein même de cette manufacture des œillets sur un territoire particulier, donc le territoire socio-culturel et historique d'Ivry-sur-Seine. Un territoire spécifique, parce que tu ne choisis jamais entre l'esthétique et le politique et que dans ton travail, tu embrasses les deux. J'avais à cœur, en tout cas, de vous redire tout ce parcours de ces 10 années donc de jalons. Et le film que vous avez pu voir ou que vous verrez après la conférence, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'expo, qui s'appelle Les Grilles de Hanoï, qui est diffusé aussi au Creda Kino, est un film, en fait c'est la partie la plus ancienne de l'exposition, puisque le film date de 2016. Et c'est un film dont nous avions aussi beaucoup parlé, Simon et moi, quand il était parti en résidence Villa Médicis hors les murs de l'Institut français. Donc c'est vous dire, alors parfois on travaille avec des artistes une fois, on construit un projet et puis parfois on construit un compagnonnage. C'est un peu comme ça que je qualifie notre relation. Et nous prendrons aussi deux éditions parce que Simon, comme je vous le disais, vraiment aussi s'exprime beaucoup par le livre et par l'édition pour ne peut-être pas trop... rentrer dans chacune d'elles, nous avons choisi de parler de deux des éditions, notamment la dernière, évidemment, que vous avez aussi peut-être découvert, donc Bochu et Selat, qui est présente et très fortement présente dans l'exposition, puisque placée au sein même de l'exposition. Et puis celle-ci, beaucoup plus modeste, La troisième calamité, qui parle des grilles de Hanoï. Alors Simon, après cette longue introduction, bien sûr tu as pu t'exprimer tout au long de cette exposition, mais je crois que ce serait intéressant pour chacun d'entre nous de peut-être que tu réintroduises ta méthode de travail. Cette méthode qui consiste à l'enquête, qui consiste à un travail de terrain, et peut-être ce premier paradoxe où finalement tu inaugures la résidence et donc l'atelier du Crédac, or tu es quelqu'un qui ne travaille pas à l'atelier.
Et en t'écoutant, quand tu dis que je ne choisis pas entre le politique et l'esthétique, je pourrais te retourner la remarque. Ça fait partie, je crois, aussi de la programmation du Crédac que de jamais opérer ce choix. C'est même peut-être un peu terrible d'imaginer qu'on doive choisir. Mais alors, sur ma méthode, par où commencer? En effet, je suis plutôt un artiste d'extérieur. Et si on pouvait faire deux méchantes catégories, qui est d'un côté des artistes qui, dans leur pratique d'atelier, approfondissent leurs recherches et élargissent leur champ d'investigation en faisant toujours de nouvelles compositions et variations. D'autres à l'extérieur, et parmi eux en premier lieu les photographes, vont au contraire documenter et faire l'inventaire de la variété de ce qu'ils peuvent trouver dans le monde. Donc, en effet, je sors pour travailler, mais j'étais quand même ravi d'être accueilli ici dans un atelier et d'avoir mais qui était un point de départ pour explorer la ville d'Ivry. Ça implique quoi de travailler sur le terrain et jamais hors sol? Je salue mon collègue Olivier Marty, qui est là aussi, avec qui on enseigne à l'école de paysage. C'est peut-être pas un hasard aussi si j'ai été embauché là-bas, puisque ça fait partie de nos enseignements auprès des étudiants et des étudiantes paysagistes, de leur demander de commencer à donner une grande attention aux paysages, à leurs composantes, à leur dynamique et même politique. On commence l'accueil des étudiants en première année, non pas leur donnant rendez-vous à l'école, mais en leur donnant rendez-vous à plusieurs centaines de kilomètres de là pour faire un premier voyage inaugural où il sera question d'interprétation de paysages et de rencontres avec les différents acteurs et actrices jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'espace de l'atelier et du travail. Donc c'est une méthode qu'on a dans notre enseignement, mais qui m'est propre aussi, en effet.
Mais c'est vrai que l'enseignement, j'en ai pas parlé, mais je pense une part importante. Alors certains artistes enseignent, et puis d'autres, et je pense que tu fais partie de ceux-là, mêlent une forme de pédagogie aussi au sein même du travail. C'est-à-dire que à la fois cette pédagogie qu'on retrouve dans ta relation à la recherche, à l'histoire, à ce que tu révèles, et en même temps un aspect quand même de ludique, je trouve, même si c'est un terme un peu complexe, mais je trouve que, notamment dans cette exposition-là, mais on y reviendra, cette question de la pédagogie, cette question de l'enseignement transparaît aussi.
En tout cas, j'essaie peut-être que j'évite aussi de temps en temps, ou bien j'ai pas eu forcément aussi tant d'opportunités, mais le format exposition, et que je me pose beaucoup la question de comment être artiste ailleurs, sur d'autres supports que celui de l'exposition, celui de l'édition, tu le disais, mais dans les collaborations avec des architectes, dans l'enseignement, voilà, d'imaginer notre métier au-delà du format exposition.
Alors, je crois qu'on peut, par exemple, pour tes collaborations, parler de ce premier livre. Enfin, en tout cas, commencer peut-être par parler de ce livre, notamment parce que je crois que Charles Mazet est dans la salle, donc un des deux designers graphiques qui a collaboré avec Simon pour réaliser ce livre. Alors, tu le disais, peut-être que le format de l'exposition n'est pas toujours celui que tu as à la fois sollicité ou pour lequel tu as été sollicité. À parts égales, je pense que le format de l'exposition est peut-être même moins important que la partie d'édition, en tout cas, ou peut-être à parts égales. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de cet ouvrage et comment tu l'as pensé en relation à la fois avec une partie des tabourets? Comment tu as travaillé peut-être avec Charles et Colline?
Ouais. Pour revenir sur la méthode aussi de manière plus générale, pour arriver au livre, les précédentes expositions que j'ai pu faire, c'était des gestes assez simples qui étaient d'explorer, je pense à l'exposition à Embrun, au Capucin. J'étais invité par Solène Morel, j'avais explorer le territoire, j'avais rencontré les amis proches du centre d'art pour finalement faire une marche depuis le col de l'échelle et puis collecter en images des échelles, collecter des échelles qui étaient présentées dans l'espace d'exposition et rendues aux différents propriétaires des échelles à la fin de l'expo. Et on a sorti un petit livret de la même manière qui présentait les différentes échelles croisées sur ce territoire, dont celle du col de l'échelle qui facilitait le passage du col et de la frontière italienne, enfin franco-italienne. En tout cas, on voit qu'on est dans une autre manière de faire des expositions que de les produire en atelier, de les accrocher, et puis après de les stocker ou d'imaginer qu'elles puissent se retrouver chez des collectionneurs. On est dans un mode d'exposition où des éléments sont extraits du contexte, scénographiés, et qui font de l'exposition un moment autour des questions esthétiques et politiques. Et ce qu'il reste finalement, puisque les échelles rentrent chez elles, il reste le livre. C'est aussi une manière pour que ça arrive chez les amis et pas forcément chez les collectionneurs. Donc ça engage une autre économie complètement. Là, c'est à peu près la même méthode. Pour revenir sur la méthode, sur un objet, on en a aussi beaucoup parlé avec Conrad qui est là, c'est le tabouret. C'est un meuble d'atelier, autant dans les ateliers des artistes que dans des ateliers de menuiserie ou de mécanique ou qu'importe. Et aussi dans les ateliers, dans les fermes, dans les étables. Et c'était le point de départ d'une enquête photographique en Suisse. Comment commencer? Je pourrais commencer par l'objet ou par le territoire? Je vais commencer par l'objet. L'objet, donc, c'est un meuble qui n'est pas dessiné, mais qui a une logique propre. Et on a développé un langage graphique qui nous permet de décomposer le tabouret avec son assise, qui est soit ronde, soit en demi-lune, ou triangulaire, ou carrée, puis avec un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, et ensuite des traverses qui peuvent avoir différentes formes, en X, en H. Donc on avait un alphabet comme ça, et un premier tabouret dans cette logique formelle-là, avec une assise ronde et un pied unique, qu'on appelle botte-cul, et qui existe dans le Jura, qui est encore utilisé dans les fermes pour la traite des vaches dans les étables ou dans les prairies. Et donc, je suis allé voir ce tabouret et découvert l'histoire politique du Jura et la naissance de la première fédération jurassienne anti-autoritaire, la première organisation anarchiste connue, où en fait, les paysans devenus petit à petit horlogers se sont organisés sous forme de fédération, et Bakounine et Kropotkine sont venus théoriser sur leur mouvement et ont créé la première mouvance. Mais peut-être que tu voulais justement...
Voilà, en fait, je voulais vous lire le tout début du livre, parce que, en tout cas, c'est très clair. Enfin, l'écriture de Simon Boudvin, si vous avez eu l'occasion de lire ses livres, en fait, est une écriture très fluide, très claire, et commence par « Le mobilier forme un langage ». Donc, les choses sont posées très immédiatement. « Le mobilier forme un langage. Les meubles combinent les différents éléments qui les constituent, comme les mots agencent les lettres d'un alphabet. Un tabouret en est l'expression la plus simple. Il est l'assemblage d'une assise, de pieds et éventuellement de traverses. Ses composants, réduits à des signes, permettent l'exploration d'une logique combinatoire. Celle qui décline les modèles de tabouret, possible ou impossible, connu ou improbable. »
Voilà, donc on avait notre tableau de Mendeleïev très théorique de ces formes de tabouret, une fois qu'on avait intégré cette logique, et on a pu vérifier dans le Jura ce qui existe ou pas, et mener une enquête photographique, et qui sont toujours aussi des rencontres, puisque j'ai enquêté principalement dans des associations, des communautés anars, ou en tout cas des gens cherchent d'autres modes de vie. Et en parallèle, on a produit des tabourets. Enfin, je fais rarement des choses par moi-même. En fait, j'emprunte plutôt, j'extrais des matériaux que je présente tels quels. Là, j'ai rejoint la famille des tabouretistes pour réaliser une exploration de ce tableau et produire une trentaine de tabourets tous différents, qui se retrouve au Crédac, et on peut consulter le livre en s'installant sur ces tabourets. Et ces tabourets, ensuite, iront équiper un collectif d'artistes qui s'est justement établi en communauté, les ateliers Bermuda, au pied du Jura.
Alors moi, j'ai gardé un dessin. Je ne sais pas si tu te souviens de ce dessin, Simon. Je vous le partage. C'est un dessin, voilà, c'était un des premiers dessins de Simon Boudvin sur le projet de l'exposition. Donc un projet d'exposition, ça peut, alors...
Je dessine mal, hein. J'ai fait les Beaux-Arts pourtant. Voilà.
Un projet d'exposition, ça peut aussi commencer comme ça. En fait, j'ai eu la chance d'aller voir Simon Boudvin cet été à la Villa Médicis. Et gentiment, il me laissait un peu une place de son atelier. J'ai trouvé ce dessin pas très loin de la maquette du Crédac et pas très loin de ma table de nuit. Donc voilà. Et ça constitue le statement de l'exposition qui mêle à la fois, pour moi en tout cas, comment je le comprenais, c'était à la fois cette combinatoire, cette exploration des formes. Et on avait beaucoup parlé évidemment d'architecture, parce que c'est évidemment une des données importantes du travail de Simon. Hein. Je pense que tu traites de la même manière l'architecture, les arbres, les voitures, le design vernaculaire ou anonyme. Et donc sur cette question de la variation et de la combinatoire, bien sûr, puisque je suis moi-même basée à Ivry depuis longtemps, à chaque fois qu'on me parle de variation, de combinatoire, je pense à l'architecture de René Guy-Youstet ou de Jean Renaudy, puisque nous vivons vraiment avec ces formes géométriques. En tout cas, c'est ce qui constitue l'identité du cœur de la ville, hein, c'est-à-dire ces triangles, ces cercles et ces carrés. Donc c'est tout à fait basique et géométrique, mais en tout cas, on est très bercé de ça. Alors, pour parler peut-être des formes de ces tabourets, j'ai amené trois petits livres de Bruno Munari, évidemment, hein, le triangle, le cercle et le carré. Bruno Munari, dont on a finalement, bizarrement, peu parlé avec Simon pendant toute la... Bah, tout le processus de création de l'exposition, on en a peu parlé, et peut-être qu'on peut en parler aujourd'hui, à la fois de ces formes géométriques et à la fois de quelque chose qui constitue une sorte de jeu, j'ai l'impression. On parlait hier avec Hélène Mézel de pédagogie alternative, de jeu, d'apprendre par le jeu. Munari est évidemment un des exemples importants de ça, et nous, on a pu remarquer que dans l'exposition, les gens jouent avec les tabourets. C'est-à-dire qu'ils font des lignes, ils refont des formes, ils ont compris quelque chose de ce que proposait en tout cas Simon Boudvin, dans l'exposition. Et on a vu, mais pas que les enfants, hein, tout le monde, en fait, faire des lignes ou refaire des combinatoires dans le Crédakino face au film, ou faire des lignes, ou jouer, en tout cas. Donc, entre la vie des formes, les formes géométriques, le jeu, et ce jeu sérieux, hein, ce jeu de société savante, hein, de fabrication de ces petits tabourets, est-ce que pour toi ça a été une source d'inspiration, ou finalement elle est tellement intégrée que tu n'y as pas plus pensé que cela ?
Si, bien sûr. Peut-être pour la retranscription graphique, mais de toute façon c'est une figure importante. Il fait justement partie des artistes qui, parmi les, c'était peut-être une spécificité milanaise aussi, mais à s'intéresser au design industriel. Il se retrouvait pas justement uniquement dans les galeries et les livres d'art, mais pouvait autant publier des livres d'enfants que des livres très didactiques et réaliser des pièces d'industrie. Après, le contenu est très différent puisque ça cherche ses formes premières dans tout ce qui serait essentiel dans les proportions ou dans la vie. C'est peut-être beaucoup moins anecdotique que dans le relevé des ornements de Hanoï, par exemple, ou beaucoup moins systématique qu'on l'a pu le faire avec les tabourets. Mais sinon, oui, j'adore. Et ses livres et son... Il avait un intérêt qui rejoint celui de l'exposition pour des objets standards. Il attribuait un compador anonyme au design anonyme favori, par exemple au cadenas du rideau de fer, espèce de bloc en laiton avec une seule tige chromée et un verrou. Il se faisait toujours l'apôtre de la simplicité. Donc moi, je me retrouve complètement dans toutes ces idées. Il mettait en exergue d'un de ses livres, c'était beaucoup la philosophie Tao, et il mettait en exergue d'un de ses livres, produire sans s'approprier, agir sans rien attendre, guider sans contraindre. Moi, je me reconnais dans les trois lignes, autant pour les productions que pour l'enseignement.
Alors, tu nous disais dans l'introduction de ce livre, de ce dernier livre, que le mobilier est un langage. Tu as aussi dit à un certain moment que réaliser un meuble, c'est écrire un mot. Quelle serait donc finalement la phrase ou le sous-texte de cette enquête liée au tabouret? Est-ce qu'elle est liée aussi à un contexte formel, évidemment, une création, une inspiration, depuis aussi le vernaculaire? Finalement, c'est une question que je pense t'avoir déjà posée, mais comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que tu vas dans un territoire particulier, politique justement, hein, on parlait de ce bastion dans le pied du Jura de l'anarchisme, est-ce que c'est d'abord le politique et ce contexte-là qui va impulser l'enquête, ou est-ce que c'est... ce mobilier qui forme ce langage, qui va tout autant t'intéresser? Comment ça commence, en fait? C'est quoi le point d'origine?
Je ne sais pas.
Est-ce que tu vas au contact, à la rencontre de personnes particulières? Est-ce que c'est ça qui va quand même plutôt guider, c'est-à-dire les gens que tu vas pouvoir rencontrer, qui vont être aussi, eux, des sources de...
d'informations? Je ne vais pas éviter la question, mais c'est un peu sur la poule et de l'œuf. Tu commençais par là, ne pas choisir. On a des affinités politiques qui nous emmènent à rencontrer certaines personnes, des affinités esthétiques, et ça se boucle. En tout cas, c'est clair que dans la méthode, qui se concentre sur un objet, il est toujours question de son lien avec son contexte. On le voit dans les photographies des tabourets ou dans le petit film diaporama sur les ornements de Hanoï. L'objet, le motif, au bout d'un moment, il sert de prétexte, et c'est tout le contexte qui est invité dans l'image qui fait le vrai sujet du travail. Le bas de cul à un seul pied du paysan qui donc attaché sous le fessier Il s'adapte à la pente de la prairie. C'est le seul tabouret qui peut s'adapter à la pente de la montagne du Jura, où il se plante dans le fumier de l'étable. Il est utile parce que l'éleveur peut aller d'une vache à l'autre avec deux seaux dans les mains. Un tabouret à quatre pieds évoque tout de suite les salles carrelées et un tabouret de cuisine. Donc en fait, les objets tout de suite sont relayés à leur contexte déjà dans leur dessin. Et puis la photographie appelle tout ça. Mais en effet, le fait de... Je me faisais cette réflexion-là, en particulier sur ce projet-là, quand j'étais en train de camper... dans ma petite tente, face à une ferme pour le lendemain essayer de photographier un tabouret. Et dans la discussion avec les personnes que je pouvais rencontrer, je ne savais plus si j'étais là pour... Enfin, je cherchais à les rencontrer pour photographier un tabouret ou si le tabouret était le prétexte pour les rencontrer, quoi. Et ça, c'est très important, parce que tant que c'est réversible, ben, on sait pourquoi on fait ça et on vit pleinement. Un des premiers trucs que j'ai noté en sortant de l'école d'art, où j'étais un peu perdu dans plein de productions différentes, à un moment donné, j'ai écrit « Plus jamais comme si ». Plus jamais de « comme si ». Je me suis refusé toute métaphore. En fait, ça m'a obligé à être présent, et à faire les choses réellement, actives, de rencontrer des gens, et pas dans une bulle de production, de représentation parallèle. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
En partie, mais c'est extrêmement important ce que tu dis vis-à-vis de l'autre. En tout cas, moi, je pense que tu es aussi un artiste qui véritablement regarde l'autre, la création de l'autre, et y compris l'autre anonyme, c'est-à-dire... que dans l'exposition telle que tu l'as pensée pour le Crédac, ou d'autres expositions, l'autre et l'anonyme et la société qui fabrique quelque chose est très importante. La force de l'objet aussi. Hein, je pense que tu as un goût, un intérêt pour les objets. Et par exemple, on peut peut-être, profitant de ce que tu décrivais tout à l'heure du Tao, peut-être aller vers ces grilles de Hanoï, qui sont aussi présentes dans l'expo et qui ont donné lieu à cette petite publication que tu as écrite. C'est donc encore une fois ta plume qu'on peut lire, et où là tu vas t'intéresser à nouveau à un design qui est nourri de formes géométriques, peut-être venues d'Europe, et qui sont... dessiner, créer la ville, en tout cas le décor d'une ville qui ne peut finalement se décliner que sur les portes et les fenêtres. Et que finalement les maisons sont d'un design ou d'une architecture extrêmement sommaire, et que finalement le point du décoratif va se nicher à cet endroit-là. Et tu vas t'intéresser, moi c'est comme ça que j'ai lu et que j'ai appréhendé ton petit livre, tu vas t'intéresser à une correspondance avec quelqu'un qui crée ces grilles. Est-ce que tu veux nous en parler ou lire peut-être un extrait ?
Oui, c'est pas lui avec qui on a poursuivi une correspondance, mais c'est une description d'un atelier de métal dans ce quartier que je filmais en 2016, qui s'appelle Backdown, à l'est, donc à l'est du mur qui protège la vieille ville d'Hanoï du fleuve et des crues. Donc potentiellement un quartier inondable plutôt informel au départ, même s'il est devenu très dense. Dans la rue de Backdang, les petits ateliers s'enchaînent. Mécanique, menuiserie, métallerie. Le rideau de fer relevé, les boutiques ne peuvent rien cacher de leur activité. Encombrées du chantier en cours, chacune d'elles ne mesurant pas plus de 10 mètres carrés, elles débordent sur la chaussée. Au 64, un trou crasseux, chape et mur imprégnés d'une poudre noire, une forte odeur de fer, de celle qui colle sous le palais. Un homme en chemise, pantalon, tongs, ramassé sur lui-même, les jambes pliées, regarde attentivement ses bouts de ferraille. Les anneaux et les barres sont répartis au sol, déplacés dans un jeu engageant les yeux et l'esprit. La composition prend forme sans croquis préalable. Les mouvements suivent un rythme qui, avec ses pauses et ses précipitations, exprime hésitation et solution exaltée. Après un regard sur l'ensemble et une dernière vérification sur les côtes, avant l'assemblage définitif, il faut encore tronçonner quelques longueurs. Accroupi, les deux pieds alignés, il bloque la barre sous la mousse de ses sandales, fuir les laies disqueuses qui envoient son jet habituel d'étincelles. Il ajuste, répète l'opération. Il tourne 2-3 fois en rond dans la boutique. Il en inspecte le sol et les murs, trouve finalement l'équerre. L'assemblage réglé, les pièces à nouveau maintenues sous la semelle, il ferme les yeux. Son visage s'illumine sous l'éclat de l'arc. Il interrompt la soudure, inspecte ses avant-bras, parcourt une seconde fois la boutique. Il trouve une feuille de papier vierge. Il la perce de 2 coups de tournevis et maintient le nouveau masque derrière ses lunettes. Les éclairs reprennent. Ce qui n'était encore il y a quelques minutes qu'un amas de tiges est devenu une grille. Elle est dressée contre le mur et son dessin s'expose déjà au regard des passants. À Hanoï, le dessin des grilles n'est jamais le même, mais il répond à une même logique géométrique. Un jeu de rencontre du cercle avec les parallèles, tangences, intersections, soustractions. Les règles sont simples et les variations libres. Les serruriers, libres du dessin des architectes, des volontés des propriétaires qui n'ont pas d'avis sur des détails aussi futiles, déclinent les possibilités en respectant un même langage constructif. De leur façon naît un style. Ils font de la rue une galerie d'art graphique où chaque fenêtre expose une grille différente, mais semblable à la voisine. Donc ensuite, on a commencé une correspondance où je dessinais certaines grilles relevées dans la ville, et puis un serrurier me complétait avec de nouveaux modèles. C'est devenu un jeu, une correspondance graphique.
C'est ce qu'on voit en effet dans l'exposition, puisque 4 séries sont en connivence dans chacune des salles du Crédac. Et les grilles de Hanoï, donc, dont parle Simon, sont à la fois traduites par des posters accrochés au mur dans les salles d'expo et puis ce film. Et finalement, à t'entendre lire... cette fabrication, ce design, ces formes, elles sont tout à fait en connivence avec les petits tabourets dont on a parlé, mais aussi, puisque tu décris beaucoup, enfin, tu t'attaches à l'humain hein, qui construit, qui s'est inspiré, qui construit, qui devient une sorte de, je dirais même de virtuose de ces grilles, de toute cette partition qu'on va retrouver partout dans Hanoï. Je pense au lien qu'on peut faire entre cette main qui crée et puis ces mains qui ont créé aussi cette Twingo qu'on retrouve et qui est aussi déployée dans les salles de l'exposition. Et bien sûr, cette Twingo, on va l'aborder par son design, mais aussi à travers la production massive. 2,4 millions de Twingo produites à Flins. Et donc, à travers ce design, on va voir aussi le corps, les corps instrumentalisés par sa production. Donc, c'est à la fois, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aborde ton travail et comme ça que je le comprends. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est question d'une forme, il est toujours question de la main qui a créé cette forme et de ce corps et de cette production, soit artisanale concernant les grilles, soit cette production de masse. Et je pense que d'une certaine manière, c'est pour ça que tu avais eu à cœur d'inviter Fabienne Loret pour parler aussi de cette fabrication de masse qui est en train de muter, on y reviendra, politiquement. Et si tu permets, parce que le temps va passer vite et ton travail est dense et passionnant, puisqu'on parle de Renault et qu'on parle à la fois de cette production, de ce design, de cette petite voiture, la Twingo qui fait sourire, j'aimerais aussi lire, si tu permets, un extrait d'écrire de Marguerite Duras où elle parle de la fin, de la fermeture des usines Renault à Billancourt. Elle dit ceci, « Je voudrais demander aux gens qui liront ces lignes de m'aider à un projet que j'ai depuis 3 ans, depuis l'annonce de la fermeture des usines Renault à Billancourt. Il s'agirait de consigner les noms et prénoms de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont passé leur existence entière dans cette usine nationale de renommée mondiale. Cela depuis le début du siècle, depuis la fondation des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Ce serait une liste exhaustive, sans commentaire aucun. » On devrait atteindre le chiffre d'une grande capitale. Aucun texte ne pourrait contrebalancer ce fait du chiffre, du travail chez Renault, la peine totale, la vie. Pourquoi faire ça, ce que je veux là ? Pour voir ce que ça ferait en tout un mur de prolétariat. Ici, l'histoire, ce serait le nombre. La vérité, c'est le nombre. Le prolétariat dans l'innocence la plus évidente, celle du nombre. La vérité, ce serait le chiffre encore incomparé, incomparable du nombre, le chiffre pur, sans commentaire, le mot.
C'est la 4L qui tenait Boulogne, et Boulogne a fermé avec l'arrêt de la 4L, je crois.
Là, on est en 91, je crois. Je ne peux pas m'empêcher, en voyant cette Twingo, donc peut-être pour certains, vous l'aurez compris, qui a fait un très court voyage depuis le garage municipal d'Ivry-sur-Seine, qui est situé à 100 mètres d'ici, qui a fait un court voyage, on pourrait l'imaginer comme ça, entre le garage municipal et puis le lieu de l'exposition. Alors, qu'est-ce que tu exposes, Simon, en faisant venir cette petite Twingo qu'on a tous utilisée beaucoup, moi la première? Qu'est-ce que tu exposes en faisant venir cette petite Twingo sur ces racks complètement? Parce que vous l'aurez compris, l'ensemble de la Twingo est présent. Qu'est-ce que tu nous dis à la fois du design, du politique, de ce corps derrière la fabrication?
Elle est arrivée par plusieurs chemins, déjà. Dans cet atelier, c'était la première photo que j'accrochais au mur. C'était un phare de Twingo que j'avais photographié dans la rue, un peu plus loin. Les voitures, je n'étais pas particulièrement intéressé par les voitures, étant plutôt écologiste, j'avais plutôt des réflexes anti-bagnole primaires. Mais en tout cas, en photographie, et surtout pendant ces 10 ans où je photographiais les Élantes à Bagnolet et Montreuil, j'ai observé ça, que on avait quand on est photographe de rue en ville, on a souvent un arrière-plan construit, minéral, un arbre, une bagnole, une bordure, quelques objets éventuellement qui traînent. Et c'est toujours la même chose et c'était jamais la même chose. Donc c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans cet accrochage aussi. Ça peut être une façade haussmannienne, un platane, une scénique, un mur d'une façade d'immeuble d'années 70, un Élante, une Twingo, on est plus à Ivry. Ça dit beaucoup de la chose, de la ville. En tout cas, dans cette analyse par objet, la voiture apparaissait déjà comme une composante. Il y a un autre chemin, c'est que j'étais invité il y a quelques années au Crack Alsace, à une exposition. Et j'avais choisi d'exposer un moteur Bernard qui tournait. Les moteurs Bernard, c'était des moteurs auxiliaires agricoles. Enfin, comme il y avait les premiers moteurs auxiliaires monocylindres, vraiment la base de la mécanique, sur lesquels on pouvait brancher une pompe ou une scie. Le moteur Bernard, c'est l'ancêtre de Renault. J'avais rencontré pas mal de clubs de retraités qui étaient collectionneurs de moteurs et qui les restauraient et qui en avaient une jouissance esthétique. Mais plus du champion que tout le public de l'art contemporain. C'est-à-dire, avant de se quitter, les gars, ils se disaient « Allez, on s'en écoute un avant de partir. » Et puis là, tu as vu la courbure dans le réservoir ou ou le diamètre du volant, etc. Donc on avait choisi de restaurer avec l'un d'eux un moteur et on l'a exposé, on l'a fait tourner pendant l'exposition. Donc c'était un premier intérêt pour la mécanique. Ça s'est poursuivi ensuite avec d'autres collaborations. Donc j'avais fait un petit livret qui s'appelle le Muséum de la mécanique naturelle. Parce qu'il y a à Giverny, derrière le jardin de Monet, il y a un muséum de la mécanique naturelle où vous pouvez voir le plus gros moteur diesel en Europe. Ils font aussi tourner de temps en temps, donc ça change complètement l'ambiance de Giverny. Et ce sont des mécanos à la retraite qui les font tourner. Et moi, j'étais fasciné par cette culture-là, en fait, de la mécanique aussi. D'autant plus ému, mais on y reviendra peut-être, que c'est une culture qui est peut-être réservée à une classe populaire qui pourrait être jugée faussement inculte et que cette culture est en phase de disparaître avec la disparition du moteur thermique. Ensuite, la Twingo, c'est la voiture, en tout cas en France, de notre génération. Donc on a a des anecdotes de vie. C'est un objet familier et standard, qui, comme le verre du Ralex ou d'autres objets simples qui sont dans l'exposition. Ensuite, quand on a choisi de faire venir la Twingo au sein du Crédac, quelle histoire on voulait convier. Donc j'ai rencontré le designer de la Twingo, je me suis penché sur le modèle, mais quand même ce qui fait qu'un objet devient un tel standard, c'est que les gestes ont été répétés à la chaîne par les ouvriers et les ouvrières, donc ça m'a amené à Flins. Et on est allé avec cette même Twingo à Flins avant qu'elle soit démontée pour rencontrer les syndicalistes dans leur Algeco à la porte de Flins. Et puis on a aussi fait venir Fabienne Lauré nous raconter comme ça la cadence de la chaîne de Flins pour produire toutes ces Twingo. Je crois qu'il y a un des moments les plus forts, mais tu voulais peut-être en parler, de pendant les visites qu'on a pu avoir pendant l'exposition, c'est celle d'un mécano. Tu parlais de personne anonyme tout à l'heure, mais je ne connais même pas son nom. La relation s'est inversée, quoi. Il m'a fait visiter l'expo. Et il nous disait que lui, sa spécialité, c'était de rectifier les moteurs. C'était d'ouvrir l'intérieur des moteurs thermiques pour ajuster les pistons et les bielles. Et que tout ça, ça se faisait plus et que ça allait de plus se faire. Ça se faisait déjà plus parce qu'il changeait les blocs moteurs en entier et ça allait plus se faire. Il avait là tout un vocabulaire qui allait disparaître avec son savoir-faire.
En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est un mécano du garage municipal d'Ivry qui est venu, parce qu'en fait, on fait assez régulièrement des rencontres de différents formats, et là, il s'agissait d'un moment plutôt sur la pause déjeuner. Donc lui est arrivé en bleu, en plus, c'était assez drôle. Enfin, logique, hein, c'est la pause déjeuner, il ne va pas se changer parce qu'il vient au Crédac. Donc, il est venu avec le directeur du garage municipal avec qui on était en négociation pour obtenir cette voiture. Donc ça a été toute une chaîne que je vous passe d'autorisation, finalement plus complexe que la voiture arrive dans un centre d'art qu'à la casse directement, bien sûr. Et donc c'était très intéressant, comme toujours. Et c'est vrai que donc, nous étions une partie de l'équipe, du public, Simon, moi-même... Et puis, donc, on les accueille, mais c'est des collègues. Et en fait, on n'a rien dit, nous, en fait. Il a tout de suite pris en charge la visite. Donc, c'était top, en fait. C'était très naturel, parce que finalement, il a bien dû percevoir... Enfin, il comprenait complètement les enjeux du travail de Simon. C'était pas la peine de lui réexpliquer. Et en même temps, je pense qu'il se sentait tout de suite, davantage que nous, la personne autorisée à... Donc voilà, très naturellement, c'était assez intéressant.
Il parlait beaucoup d'espace.
Il parlait d'espace, il parlait aussi de pourquoi maintenant les moteurs de... Alors moi, j'ignorais ça, mais que les moteurs de Twingo maintenant sont à l'arrière et plus à l'avant. Et que donc, on a moins de capacité de travail, puisqu'il y a moins d'espace entre le moteur et l'habitacle du moteur. Donc beaucoup plus complexe à l'arrière, moins d'espace. Et puis finalement, on n'arrive quasiment plus à les réparer, en fait. Donc, on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée, on a beaucoup parlé, finalement, d'écologie à travers cette mécanique. Et finalement, c'est à peu près la manière dont, moi, en tout cas, j'aborde toujours le travail de Simon Boudvin, parce qu'il est question de tout ça mêlé, me semble-t-il. Et donc, c'était un moment hyper intéressant, où moi, bien sûr, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je sois quand même un peu plus au courant de ce qu'il y a à l'intérieur d'une voiture, puisqu'on a tout mis. Il y a des choses que je reconnais parce que je suis utilisatrice et conductrice, donc je sais où est le warning et où est le klaxon, bien sûr, où est le volant, mais voilà, j'ignore absolument plein d'autres pièces. Bon, le pot d'échappement, si, quand même, ça, je repère. Puis il y a des choses que je ne sais pas, et donc il était absolument capable de nous décrire l'ensemble de cette exposition, de tout ce qui est sur les étagères, et qui ressemble presque à une réserve de musée, hein, pour ceux qui ont vu l'exposition. Donc dans cette réserve de musée, il y aurait toute la composante de cette voiture, et peut-être quand même, enfin moi c'est comme ça que je lis l'expo, et parce que Simon, tu l'as un peu dit aussi, que c'était une sorte, on peut peut-être le dire, d'un au revoir à l'automobile, en tout cas, ou à quelque chose qui est en voie de qui est dans un moment un peu étrange, c'est-à-dire qui est dans une en voie de disparition, les usines de fabrication ferment, au profit par exemple Flins qui devient maintenant une usine non plus de production mais de recyclage. Et donc tu le disais à un moment, c'est aussi une sorte d'hommage à un au revoir à l'automobile. Et pendant le montage de l'exposition, donc en janvier, je lis dans le Nouvel Observateur un article de Bruno Latour, donc évidemment incontournable aujourd'hui, s'exprimant beaucoup dans les médias. Il dit « L'histoire moderne est terminée, mais nous ne l'avons pas avouée ». Juste un extrait. Hein. « J'avais proposé de transformer le nom du Centre Pompidou, musée d'art moderne, en, ouvrez les guillemets, musée de la modernité finie ». Fermez les guillemets. Je ne plaisantais pas. Nous manquons d'un rituel de clôture. Notre histoire était utopique. Maintenant, elle est terrestre. Alors, disons-le. Et donc, pendant le montage de l'expo de Simon, je lis ça et je me dis, tiens, ce rituel de clôture, puisque tu me disais, c'est d'une certaine manière un au revoir à cette Twingo qui va sortir aussi du paysage d'Ivry, puisque toutes vont partir là prochainement à la casse, parce qu'elles sont toutes transformées par... changées pour des Twingo nouveaux modèles. Et en même temps, ce modèle est tellement questionné aujourd'hui de la voiture. Tu parlais d'un au revoir à l'automobile. Est-ce que tu parlais de cet au revoir à ce design, cette Twingo, ou est-ce que tu... De quoi parles-tu précisément quand tu parles de cet au revoir à l'automobile ?
Oui, les questions d'écologie. Ça, je me suis posé souvent les questions de comment approcher tous ces sujets-là d'une manière justement pas trop illustrative. C'est pas parce qu'on parle d'écologie qu'il faut montrer des plantes vertes ou du pain bio. Au contraire. Il faut interroger les liens affectifs qu'on a pu nouer et les cultures qu'on a pu développer et à quel point on a pu abîmer des corps pour entretenir un siècle de cette mécanique automobile au moment où il faut la transformer ou y renoncer, quoi. Donc, c'est une manière de convoquer... tout ça, en effet, avant qu'elle parte à la casse. C'est un peu court comme réponse. Oui, je sais. C'est plus compliqué de montrer toute la complexité de nos liens et de réinviter les acteurs et les actrices de choses qu'on peut d'objets qui sont devenus des encombrants, quelque part. D'ailleurs, ça me fait penser... j'avais exposé... chez Jean Broly, il y a quelques années, à la galerie Jean Broly, des cuves de mazout. C'était assez différent, mais parce que ça, c'était des simples volumes en tôle, de couleurs différentes et patinés différemment, un peu rouillés ou imbibés de fioul. Mais c'était un moment donné où les agriculteurs renonçaient à l'usage de fioul rouge ou étaient contraints d'utiliser de nouveaux réservoirs. Et il y avait tous ces volumes. De fioul, de tous ces réservoirs de fioul qui devaient sortir des fermes et qui avaient été mis en scène. C'est sûr, on peut soit développer une esthétique sur ce qu'on souhaiterait voir davantage, soit réinterroger notre affection pour des choses qui sont appelées à être évoluées, quoi.
Alors, tu parles de recyclage, d'objets encombrants. En fait, il y a aussi une chose qui est intéressante à savoir, ou en tout cas à penser ou à réfléchir dans le travail que mènent certains artistes contemporains, dont Simon Boudvin, c'est-à-dire de quoi, après l'exposition, qu'est-ce qui reste, en fait ? Quelle est la nature de l'œuvre de Simon Boudvin ? Et qu'est-ce qui reste ? En gros, la Twingo part au recyclage, donc continue sa vie d'encombrant. Donc Simon ne fait pas de capital sur cet objet, puisque l'objet, tu t'en dessaisis complètement et continue sa route vers le recyclage. Les tabourets, Simon, vous le précisez tout à l'heure, vont partir dans le Jura. chez Bermuda, donc ce collectif d'artistes, donc d'objets à valeur d'usage au sein d'une exposition, ces tabourets vont continuer leur chemin et leur vie. Les posters des grilles d'Hanoï finalement vont être repliés et donc très peu encombrants. Et puis les verres du Ralex, qui sont grands comme l'échelle d'un verre, vont sans doute être placés dans une étagère, mais à peu de frais. Donc finalement, il y a une cohérence aussi là, c'est-à-dire que tout n'a fait qu'un passage en fait au centre d'art. Alors c'est le cas parfois quand on construit, mais là on parle d'objets qui vont voilà poursuivre totalement ce recyclage. Je pense que c'est un terme, en tout cas le recyclage, la réutilisation sont des choses qui te tiennent à cœur, la mémoire y compris des matériaux. Et je pense notamment, si on veut ouvrir peut-être une autre voie que le format d'exposition, l'édition, le passage entre tes mains à un certain moment d'un objet et qui va continuer sa route, tu as aussi, par ailleurs, réalisé une commande publique assez marquante qui a fait aussi, qui a donné l'occasion d'une autre publication, le Nouveau Musée. Donc il s'agit d'une commande publique que j'ai évoquée tout à l'heure à Moucron, en Belgique. C'est tout à fait, là, pour le coup, pérenne, puisqu'il s'agit plutôt de recyclage qui rejoint une architecture. Donc, je m'explique un peu mieux, c'est-à-dire que cette commande publique a consisté à collecter des briques issues de la démolition de construction. Et donc, tu as pu, en 8 provenances différentes, tu as pu récupérer 30 000 briques qui ont servi à la construction du nouveau musée de cette ville, et donc qui raconte l'histoire donc de la démolition de 8 bâtiments, de recyclage de ces briques pour construire le musée, donc ce lieu de mémoire, et en même temps là pour le coup totalement pérenne, un recyclage pérennisé et en même temps totalement invisible, parce que non content de ne pas décorer la façade du musée, ce qu'on peut parfois attendre d'un artiste. Là, tu as permis le recyclage, mais aussi la conservation de ces briques, et qu'en plus, tu les as peintes en blanc, donc elles ont totalement disparu. Donc c'est un geste finalement invisible, non ostentatoire, non décoratif, mais pour autant pérenne. Donc là, on est dans un autre axe peut-être de ton travail.
Oui, et c'est totalement opportuniste. C'est un mot que j'aime bien, pas dans un sens être opportuniste pour son bénéfice propre. C'est la différence qu'on pourrait faire entre aller tout droit quoi qu'il arrive avec un gros moteur diesel ou faire de la voile en fonction des vents, tout comme reprendre une voiture de la ville d'Ivry et lui faire 100 mètres alors qu'elle va à la casse. À chaque fois, l'idée c'est de découvrir un territoire, rencontrer les gens, voir les énergies, quelles sont les discussions, quels sont les enjeux. Et quelles sont les discussions à la cantine municipale, comment ça implique les gens, et de me servir de ces énergies-là ou de les accompagner, qu'importe. C'est pas forcément dans le sens d'une réappropriation, ça peut être de les accompagner ou de les partager. Ça, c'est un enseignement indirect de mon ancien prof, de Giuseppe Pennon, de tailler la matière dans le sens de la fibre et de ne pas lui imposer une forme. Mais pourquoi je parlais de ça ? C'était un peu opportuniste parce que il s'agissait du musée d'histoire de la ville. Je rencontre les architectes qui sont des architectes qui ne veulent surtout pas faire de gestes ostentatoires dans leur design. Et les publications de ce musée, c'est qui ont commencé qui a été fondé par le greffier de la ville. C'était des descriptions des bâtiments qui allaient être démolis. Donc en fait, j'ai rien inventé. Hein. J'ai proposé à ce qu'on construise le musée en briques de remploi et de documenter ce qui allait être démoli pendant le chantier de la ville. J'ai proposé aux architectes qu'ils étendent leur mission non pas à la construction du nouveau musée, mais à s'intéresser à ce qui va aussi disparaître, puisque c'est là la mission du musée. Et la publication, elle reprend le format assez standard de la description des formes de construction dans la ville. Donc c'était assez opportuniste de ma part, c'est naturel en fait. On pourrait demain oublier que c'est un artiste qui l'a fait, ça n'empêcherait pas le naturel de la chose. Et finalement, les briques, elles ont le même statut que les objets qui sont compris dans le musée, que ce soit les anciens outils du sabotier ou. Voilà, qui font les... Mais tout à l'heure, tu parlais, j'y repense maintenant, parce que je ne suis pas tout à fait satisfait de ma réponse sur la Twingo, mais tu utilisais un mot qui m'a... Tu utilisais le mot d'encombrant. Je pense que c'est un peu ma réserve de matériaux pour travailler. C'est un peu tout ce que les gens vont garder dans leurs arrière-cours. Les échelles, une vieille palette de briques, une carcasse d'une voiture qu'ils ont aimée dans leur enfance. Vous savez ce qui est entre le petit capital familial et le déchet ? Et on n'arrive pas à trancher. On jette ou...
Oh. C'est une jolie réponse. Peut-être pour finir, en tout cas pour ma part, parce que tu parlais des courants porteurs, des énergies qui permettent peut-être... Voilà, tu pour les journées avec vent, en tout cas, tu suis les courants. Et donc, tu vas sur différents territoires. Donc... Moi, je t'avais invité à inaugurer cette résidence parce qu'il me semblait que le territoire d'Ivry avait des composantes qui pouvaient répondre à... Bon, en tout cas, à inviter ton travail. Donc à la fois architecturalement, politiquement, la mémoire des luttes de classe, les objets de classe, les choses qui ont déjà traversé le projet du Crédac depuis un moment. Et donc, vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont visité l'expo, il y a donc 4 séries qui ont tout à voir avec des standards. Hein, donc le vert Duralex, les gris, la Twingo et ses tabourets. Et puis, il y a un petit... il y a un intrus. Il y a un calendrier d'images qui est accroché à votre disposition, d'ailleurs. Vous pouvez partir avec ce poster qui, très modestement... donne à voir quelques images de Simon, de portes et de poignées de portes de 16 cités d'Ivry, construites entre 1928 et 1986. Et donc, c'est le début d'un projet. Donc, c'est assez jubilatoire aussi de se dire que la suite de notre collaboration, donc de notre compagnonnage, puisque cette expo ne clôt pas ce compagnonnage dont je parlais tout à l'heure en introduction, que c'est peut-être le début de ce nouveau courant porteur. Et en même temps, il est question de poignée de porte et de seuil. Donc ce sera à la fois l'entrée du prochain projet entre nous et la sortie de l'exposition. Et donc, peut-être pour terminer cette rencontre, jusqu'à la prochaine rencontre, peut-être avec toi, quel est le courant porteur ? Qu'est-ce qui t'a guidé à choisir plutôt ce sujet-là ? D'entrée, de lecture de cette ville, en fait, par ses portes et par ses poignées de portes.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que je travaille sur le terrain, mais aussi beaucoup dans les... Enfin, je vais en général aussi dans les bibliothèques et regarder ce qui a été publié à chaque fois sur les sujets. Là, il y a deux types de livres sur la ville d'Ivry qui sont soit son histoire politique, la banlieue rouge, la ville communiste... Et de l'autre côté, toutes les inventions architecturales et urbaines par René Gayousté, Renaudy et les suivantes, Ivona Bukovska, Nina Chour. Alors que j'ai l'impression que c'est exactement entre les deux et en remontant dans l'histoire de la construction de l'OPH d'Ivry avec ce qu'ont construit les chevaliers, la barre Maurice Thorez derrière ou d'autres cités plus anciennes. De revoir le projet politique qu'il pouvait y avoir dans ces formes et à quel point dans les années 70-80 ça a été extrapolé avec les propositions de Renaudy et Gayousté dans le centre-ville. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un travail photo et cartographique, j'ai commencé, c'est que quand ils construisent, ils démultiplient l'espace public et les espaces végétaux. Classiquement, quand vous faites une carte d'une ville, vous avez le bâti privé, la voirie, le parc ou la rangée d'arbres. Et les choses sont les unes à côté des autres. Eux, quand ils construisent, il y a des espaces publics qui passent par-dessous, par-dessus, des terrasses plantées par-dessus. Et ils démultiplient à chaque fois ces espaces-là. Et il y a des espaces de terrasses qui sont collectives ou ouvertes à tous, des, des galeries, ce qu'ils appellent des, ou des promenées, des chemins de traverse à travers la ville. Comment en faire l'inventaire et comment rendre ça visible? C'est un travail photo assez difficile. On a commencé là par... C'est un vaste travail photo, mais on a commencé par montrer juste les portes et les poignées de portes de chaque cité qui, comme ça, sont en plus identifiées par des gestes très graphiques. On aurait pu en faire encore un petit livre.
Donc, encore une fois, c'est à la fois la forme et l'histoire du logement social qui va t'intéresser. C'est encore une fois cette combinatoire entre la forme et l'histoire.
Oui, je pense que ça va être aussi un vrai travail de représentation de plan. Il y a eu beaucoup de livres publiés sur l'architecture de Renaudie en particulier, où on voit les plans des appartements qui sont en effet exceptionnels et tous différents. Mais c'est cette complexité des formes de l'espace public. Il y a des endroits, si vous vous baladez sur la cité Jeanne Hachette, sur le centre-ville, sur le centre Jeanne Hachette, vous êtes sur une terrasse et vous ne savez pas si vous êtes sur une terrasse privée, si vous êtes sur une place publique. Vous n'êtes pas vraiment sur une dalle comme les dalles de Sergi Pontoise ou des Olympiades. C'est très planté et c'est accessible. C'est vraiment des formes d'espace qui pourraient revenir à des communs tels qu'il y aurait pu avoir dans des villages. Je pense que là, il y avait un vrai projet communiste quelque part. Et ça m'intéresse, ça, de confronter ça à l'image.
Merci beaucoup, Simon. Donc, on finira cette rencontre par commun et communiste. La semaine dernière, Simon a accompagné... des visiteurs de ton expo, mais pas que, une trentaine de personnes qui sont allées visiter ces communs, cette architecture d'Ivry en compagnie de Simon, donc sur le terrain, donc apprendre sur le terrain. Merci beaucoup. Simon, peut-être que vous avez des questions, peut-être vous avez envie de compléter ou d'interroger ou de bavarder après. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole ?
Je commence là. C'est-à-dire un mot donc qui est prétexte, parce que moi j'ai ressenti ça quand j'ai vu le film, c'est-à-dire que tu montes les formes géométriques. Donc nous on regarde les formes géométriques, mais en fait, enfin dès qu'on repère la forme géométrique, on regarde tout ce qui est autour. Et c'est des plans très 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 beaux. Et les couleurs, et même les compositions. C'est des images belles. Et même on voit aussi, tu vois, la culture. Hanoï, en fait, on voit la vie là-bas. Et ma question, c'est est-ce que, quand tu filmes ces formes, est-ce que tu prévois ce qu'on voit autour? Et ça veut dire, est-ce que tu te places... Enfin, si oui, comment tu te places? Comment tu réfléchis plastiquement parlant, quoi?
Là, c'est filmé au pied en plus, donc c'est comme un film diaporama, une succession de plans fixes. Ça nécessite de passer beaucoup de temps. Je suis resté 3 mois dans ce quartier, je filmais tous les jours. Et vous posez votre pied, vous cadrez, vous avez à la fois ainsi un ornement de façade et une fenêtre, et vous êtes prêt là à filmer pendant... jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelqu'un qui sort ses oiseaux, quelqu'un qui sort à sa fenêtre, pour chacun des cadrages. Parfois, c'est plus simple, ça peut être plus rapide. Donc ça, c'est assez étrange de photographier ou filmer comme ça, parce qu'en fait, vous posez votre appareil sur un pied, puis après, vous prenez un bouquin, et puis à côté, vous mangez une soupe. Et ça permettait aussi de passer le fait de passer beaucoup de temps, ça permettait de devenir invisible. Parce que les gens, parce que j'aime pas ça habituellement d'avoir un zoom, un téléobjectif là, donc c'est un objet assez imposant, et le fait d'y retourner tous les matins, donc j'imprimais, les gens me voyaient et savaient ce que je faisais. J'imprimais de temps en temps quelques vues pour leur montrer ce que je documentais. Et puis le film, en fait, il a été montré 2 fois avant d'être montré ici. La première fois, c'était dans leur quartier, dans une boutique. Et la deuxième fois, c'était une exposition sur l'ornement à la Triennale d'architecture à Lisbonne.
Merci à tous et voilà, on est à disposition si vous avez envie de discuter ou de poser une question, pas forcément en mode micro. Voilà, merci à tous, bonne fin d'après-midi.